Il est 8h moins le quart, voici la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
On va s'intéresser aux scientifiques qui estiment que chaque jour, 5 plantes disparaissent à tout jamais de la surface de la Terre.
C'est considérable et préoccupant. Est-il utile de rappeler, pour ne citer qu'un seul exemple, que c'est dans l'écorce du quinquina, un arbre originaire de l'Équateur, qu'il fut découvert la quinine, un alcaloïde très utile dans la lutte contre le paludisme. Que serait-il arrivé si le quinquina avait disparu avant d'être découvert? Certainement des centaines de milliers de victimes en plus.
Et pour être encore plus pessimiste, les botanistes estiment à plus de 20 000 le nombre de plantes menacées d'extinction.
Là encore, c'est considérable. Sachez toutefois qu'il existerait, j'emploie le conditionnel bien sûr, sur la planète, près de 390 000 espèces végétales à fleurs. Cela contient entre autres les arbres, 610 000 champignons, 27 500 espèces d'algues, 13 000 de fougères et prêles et enfin 20 000 espèces de mousses. Alors si chaque année, effectivement, il en disparaît beaucoup, il s'en découvre aussi, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles sont nouvelles. Elles vivent dans l'anonymat et n'ont encore jamais été vues, mais il est vrai que pour l'année 2016, par exemple, près de 1730 nouvelles espèces de plantes ont été répertoriés.
Et il s'agit le plus souvent de petites herbes discrètes et difficiles à distinguer des autres plantes.
Oui, mais pas toujours. Il a été découvert en 1943 en Chine un conifère baptisé Metasequoia glypsroboides. Sa croissance est rapide et il atteint adulte 60 mètres de hauteur. Comme quoi on peut être un géant du monde végétal et passer inaperçu.
Oui, mais en 1943, la Chine était encore un pays fermé aux étrangers.
Alors, autre exemple, en 1994, il est découvert en Australie, cette fois un conifère d'une quarantaine de mètres de haut. Il est baptisé Volemia nobilis et un exemplaire a d'ailleurs été planté il y a quelques années dans le Jardin des Plantes de Paris.
En 25 ans, Alain, les choses ont bien changé. Il serait incroyable aujourd'hui que de grands arbres soient encore inconnus des botanistes.
Détrompez-vous, il existe un arbre de la famille des Euphorbiacées qui pousse dans les Andes, au Pérou et en Équateur. Sa hauteur est de 26 mètres et ses feuilles ressemblent de près à un laurier du Caucase. Il vient tout juste d'être découvert, quand je dis tout juste, il y a quelques mois à peine. Les scientifiques l'ont baptisé Incadindron Isseri. Inca dindron pour arbre des Incas, c'est logique. Et Esseri pour rendre hommage à Hans Joachim Esser, un botaniste allemand né en 1960. Et qui sait, peut-être cet arbre contient-il dans sa sève ou son écorce, comme le quinquina, de quoi soigner les hommes.
Qui sait, comme vous dites. Question des auditeurs à présent. Patricia qui vous demande, Alain Baraton, mon jasmin produit beaucoup de pousses, il est même envahissant, mais il ne fleurit plus depuis 4 ans. Alors la situation, c'est nord-ouest, en jardinière, avec beaucoup de terre. Alors merci, dit Patricia, merci de me dire ce qui se passe.
Eh bien écoutez, une chose simple, une plante a besoin de soleil pour fleurir, pour fructifier. Et c'est le cas principalement des plantes grimpantes. Pourquoi une plante grimpe-t-elle? Eh bien pour rechercher la lumière. Le lierre s'enroule autour des arbres pour pouvoir, en automne, quand ces derniers ont perdu leur feuillage, eh bien fleurir et fructifier
chercher
directement
la photosynthèse
sous le soleil. Eh oui, tout à fait. Eh bien vous venez de parler de photosynthèse. Le jasmin de notre amie Patricia est planté sur un balcon et il y a suffisamment de luminosité pour pratiquer la photosynthèse. Mais il n'y en a pas suffisamment pour fleurir, tout simplement parce que l'exposition en termes de soleil ne lui convient pas. Alors que fait la plante? Elle produit des feuilles, produit des lianes dans l'espoir d'atteindre le soleil et malheureusement elle n'y arrivera pas parce que l'exposition sur le balcon ne correspond pas aux besoins d'un jasmin.
Pas bon donc. Question de Joël, c'est une femme. Elle vous dit, ma marcotte d'amélanchier ou d'amélanchier pas très bien, a quelques bourgeons, mais il est encore alimenté par l'arbuste. J'ai lu qu'il fallait la séparer au bout de 6 mois. Dois-je le faire maintenant ou attendre le printemps?
La mélanchier, car là le nom est français et non pas botaniste. Si par contre on devait employer le terme botanique, on devrait dire amélanchier, parce qu'effectivement le CH en latin se prononce K. Là je crois qu'on doit dire amélanchier, je suis quand même prudent. Hier justement avec Patricia Martin, nous parlions du marcottage.
J'ai marcotté tout l'après-midi.
Eh bien, fort bien fait. Eh bien, la mélanchier se marcotte. Et effectivement, on dit qu'au bout de 6 mois, on peut séparer la marcotte du pied-mère. Erreur, on attend, on regarde. Que faire? Eh bien, il faut gratter délicatement, voir si la tige a produit quelques racines. En l'absence de tige, on ne touche à rien. Mais nous sommes aujourd'hui en automne, on approche même de l'hiver. On est peut-être bientôt, je ne sais plus à quel...
En principe, c'est le 21.
C'est 21 décembre.
Voilà,
principe,
le 21 décembre.
Décembre.
On vérifiera.
Donc, on se rapproche donc de l'hiver à grands pas. Pourquoi se précipiter maintenant pour détacher la marcotte? Attendons tout simplement le printemps, il sera toujours temps.
Jeanne vous demande, elle vous dit d'abord que toutes les feuilles de ces micocouliers ont séché cette année. Les arbres semblent morts, quelle peut en être la cause?
Le micocoulier est un arbre qu'on voit souvent dans le sud, c'est une erreur. On pourrait également en voir davantage au nord de la Loire, tant l'arbre est beau et est magnifique. Et le micocoulier a un peu trop disparu de notre environnement, car autrefois c'est avec son bois qu'on fabriquait les manches d'outils. Il a un bois extrêmement sérieux, solide, mais également un bois qui peut être un peu flexible. Et la flexibilité et la dureté est un argument de poids pour fabriquer justement des manches d'outils. Alors le micocoulier fut un petit peu trop exploité. C'est un arbre qui résiste pratiquement à tout. Il est sujet à la chlorose. La chlorose est liée à une carence dans le sol, généralement due à la présence de calcaire. Il est également vulnérable à ce qu'on appelle l'érinose. C'est un acarien qui va provoquer quelques petits dégâts en piquant et en se nourrissant des feuilles. Mais logiquement, il n'y a pas de raison de maladie pour qu'un micocoulier disparaisse. Donc je pense que le problème, soit une pollution dans la terre, soit une pollution dans l'air, mais il y aurait eu du produit dans le coin, que ça ne m'étonnerait pas.
Un dernier conseil de lecture ce matin.
Oui, un gros bouquin. 30 ans d'exploration des canopées forestières tropicales. Préface Hubert Reeves. Déjà la préface Hubert Reeves, c'est pas n'importe qui. L'auteur du livre, Francis Allais, c'est certainement pas n'importe qui. C'est, je crois, le plus grand ethnobotaniste français de tous les temps. Cet homme a écrit cet ouvrage extraordinaire. À consulter sans attendre. Muséo Édition, 39,50. Extraordinaire.
Merci Alain Baraton.